Bonjour David, bonjour à tous. La pénurie de chauffeurs impacte les transports scolaires. Conséquence hier, des lignes n'ont pas pu être assurées sur l'agglo de B, mais des solutions ont été trouvées. La rentrée à Mauléon se décline par le lancement de plusieurs chantiers, notamment avec l'acquisition prochaine du presbytère. L'ancien chef d'entreprise Boquin, Jean-Louis Suire, exposera ses toiles à compter du 14 septembre au Bocapôle. Le fruit de leur vente sera entièrement reversé au profit de la Ligue contre le cancer. La collecte des dons en faveur de la collégiale de Thouars, du château de Thouars, connaît un réel succès sous la houlette de la Fondation du patrimoine. Les Chamoignortais ont un nouvel entraîneur. Rui Almeida a été officiellement présenté hier. Quant à la météo, éclaircie et quelques passages nuageux pouvant encore laisser échapper quelques gouttes sont au programme de notre après-midi. 9 circuits n'ont pas pu être assurés hier matin sur l'agglomération du Bocage Bressuré dans un contexte très tendu de pénurie de chauffeurs chez l'un des prestataires. Il faut savoir que 4 entreprises se partagent le marché, conclu pour la période 2020-2026 pour transporter 5000 élèves jusqu'à leur établissement. Et l'un des prestataires, Avenir Atlantique en l'occurrence, doit faire face à une pénurie de chauffeurs. Mais des solutions qui permettent la reprise de circulation normale sur toutes les lignes scolaires ont été trouvées, comme nous l'a indiqué hier Dany Grelier, le vice-président de l'agglo en charge des transports. Il était en direct dans le Colline Info Soir de Fabien Gazot.
L'objectif, c'est de pérenniser des solutions qui vont être temporaires, mais au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint, de façon à permettre aux transporteurs qui ont actuellement des difficultés au niveau du personnel de pouvoir trouver des solutions et de pérenniser par la suite les transports qui lui sont demandés.
Oui, parce que les autres prestataires rencontrent moins de difficultés avec leurs chauffeurs, c'est ça la solution.
Je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je remercie surtout une entreprise. La chance qu'on a, c'est qu'elle avait la possibilité, parce que des activités ne sont pas encore démarrées, telles que l'UNSS et entre autres des transports qu'ils assumaient à côté, ce qui fait qu'ils se trouvent avec une marge de manœuvre qui permet d'absorber 7 des 9 circuits qui posaient problème, des 10 circuits annoncés, d'en absorber 7, et ce qui fait que ça permet à l'entreprise Alliance Atlantique de voir venir, de les soulager.
Dany Grelier, vice-président de l'agglo de B en charge des transports, à propos justement des transports scolaires, désormais normalement assurés. À Mauléon, la rentrée rime avec chantier. Outre le lancement de la création d'un terrain de jeu synthétique aux abords du complexe sportif Paul Martin, ce que nous évoquions il y a peu, le second chantier phare mené par la municipalité concerne la restauration des remparts du château. Au printemps dernier, plusieurs cordistes ont sécurisé les falaises. Ce sont maintenant les travaux de cristallisation de 2 tours qui ont débuté afin de stopper leur érosion. Le 20 septembre prochain, la ville va acter l'achat du presbytère amené à être dédié aux associations. Les précisions du maire de Mauléon, Pierre-Yves Marolo.
Ce presbytère, on s'est mis d'accord depuis maintenant plus d'un an avec l'évêché qui voulait s'en défaire. Il nous semblait important que ça passe pas dans le privé. Dans un premier temps, ce sera donc vraiment pour permettre aux associations de s'en emparer. Alors on va les rencontrer. On en a déjà rencontré 2 puisque elles sont actuellement dans la Grand Rue. C'est le Bram et puis les enfants de Madagascar. Puisque là aussi, on va être aidé par l'État dans le cadre de la réhabilitation du local où elles sont, et en particulier à l'étage où on veut refaire un logement d'habitation. Et donc dans ce logement d'habitation, il sera mis à disposition, alors contre un loyer sans doute modique, mais ça n'a pas été encore fixé. Pour les professions médicales, on se rend compte que les professions médicales moléonaises, quelquefois, elles reçoivent des stagiaires, elles reçoivent des remplaçants. Et une des premières questions de ceux qui viennent, c'est est-ce qu'on peut être logé? Donc c'est une pierre de plus à notre édifice pour essayer de lutter contre la démographie médicale, en tout cas l'absence de médecins et de professions médicales. Donc c'est un peu le but qu'on s'est fixé sur cet immeuble-là.
Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon, a noté également que l'ancien local de l'association Cuir Mauléonais, place du Château, va être réhabilité pour y accueillir le CIVAM du Haut-Bocage. En bref, Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, ayant changé l'heure de sa venue, l'inauguration de la mairie annexe de Noirterre ce vendredi 9 septembre, initialement prévue à 16h30, est avancée à 10h45. Bien entendu, nous en reparlerons. Ce n'est pas un lieu habituellement consacré aux expositions. Une raison supplémentaire d'aller voir celle de Jean-Louis Suire. La première étant que la vente des toiles exposées du 14 au 18 septembre à Bocquepol-Bressuire le sera entièrement au profit de la Ligue contre le cancer. L'ancien chef d'entreprise y a mis une partie de son âme. À 82 ans, le Bocquin n'a jamais oublié le professeur Jacques Aubert, aujourd'hui décédé, celui qui l'a sauvé d'un cancer du rein lorsqu'il avait 41 ans. Jean-Louis Suire, au micro colline de Jacqueline Pinon.
J'ai rencontré au CHU de Poitiers un professeur très compétent, un très grand professeur, Jacques Aubert, qui m'a pris en quelque sorte en main. Quand je suis rentré la première fois dans son bureau, j'ai vu vraiment que c'était quelqu'un d'absolument exceptionnel et qui a procédé à l'ablation de ce rein et qui m'en a sorti. Donc, et depuis, j'ai jamais oublié cet homme. Et c'est pour ça que maintenant, je fais une action pour la Ligue en mémoire de Jacques Aubert, qui était vraiment un homme d'exception.
Celui qui s'est mis à peindre durant sa convalescence a repris le pinceau une fois à la retraite. Du figuratif, nature morte, portrait, paysage, ces toiles de belle facture sont exposées à Bocquepol du 14 au 18 septembre.
La peinture, d'abord, c'est une bonne thérapie. Lorsque l'on peint, on s'adoucit. On se repose en quelque sorte et on arrive à oublier un petit peu les mots que l'on peut avoir. Et puis ensuite, elle permet de jeter un regard différent parce que lorsque l'on peint un portrait, par exemple, on recherche des sentiments dans la personne que l'on peint, on l'examine, on l'observe et finalement ces qualités d'observation qu'on peut obtenir, on les transpose ensuite dans la vie courante et on regarde les choses vraiment différemment d'une façon plus apaisée, plus adoucie. Ça rend heureux la peinture.
Vous diriez qu'un professeur et la peinture vous ont sauvé ?
Oui, les deux réunis ont fait que ça a été un duo gagnant, puisque je m'en suis très bien sorti.
Toile d'espoir, une exposition de 102 tableaux, ouverte du 14 au 18 septembre à Bocquepol, au profit de la Ligue contre le cancer de la Vienne et de la Fondation Aliénor qui finance la recherche contre le cancer au CHU de Poitiers. À Thouars, la quêteuse pour la collégiale du château à moitié remplie. Entraînée par la Fondation du patrimoine, la collecte des dons en faveur de la collégiale du château de Thouars connaît un réel succès. L'église, qui observe le rite de la messe en latin, appartient à la fraternité Saint-Pidis, doit faire l'objet d'une indispensable restauration à hauteur d'1,5 million d'euros. Une première tranche concernant la façade qui tombe en lambeaux représente un chantier de 700 000 euros et 8 mois après le lancement de l'opération, l'objectif est en vue, comme l'explique au micro-colline de Dominique Hérault, Christelle Begmourin, déléguée de la Fondation du patrimoine antoircé.
Tout l'intérêt architectural de cet édifice que l'on a sous nos yeux est bien pris en compte par l'ensemble des donateurs, puisque nous atteignons aujourd'hui 345 000 euros de dons, donc pratiquement la moitié de l'objectif à 150 jours à peu près de la fin de durée pour donner. Des dons qui viennent de toute la France, des Toircés, mais aussi des entreprises, d'importants donateurs, ce qui fait aussi ce chiffre qui a vite augmenté.
Sur les 345 000 euros réunis actuellement, 203 000 euros relèvent des dons notamment des membres de la fraternité et 143 000 euros proviennent de la Fondation du patrimoine. Détail qui n'est pas sans importance, l'affluence vers cette cagnotte s'explique par le fait que le don est défiscalisé de 66%, système qui permet aux donateurs de ne payer qu'un tiers du don puisque l'État fait cadeau des deux tiers sur la feuille d'impôt. Pour autant, il est vrai, il y a un vrai mouvement en faveur du patrimoine local, une sorte d'effet Notre-Dame de Paris. Christelle Begmorin.
On est sur un retour aussi des dons, plus important peut-être dans ce contexte de 2019 et de l'après-incendie de Notre-Dame de Paris, où il y a ainsi une prise en compte dans toute la France de l'importance de donner pour un édifice emblématique national, mais aussi pour tous ces édifices importants qui font l'histoire des territoires. La Fondation du patrimoine en voit ce retour et cette augmentation de l'intérêt du public pour donner sur la restauration de leur propre patrimoine. certes, la collégiale attire des dons de toute la France, mais il y a aussi d'autres lieux qui ont lancé des appels aux dons. Donc, c'est le cas des propriétaires du château de Gléné. C'est le cas aussi de la mairie de Saint-Jean-de-Thouars, dans le cadre de la restauration du clos de l'abbaye, ainsi que la mairie de Lorée d'Argenton, vis-à-vis de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, suite à l'incendie que cet édifice a subi il y a peu d'années.
Divers concours financiers devraient intervenir pour atteindre l'objectif de la première tranche de 700 000 euros de travaux. L'abbatiale étant classée monument historique, le ministère de la Culture mettra la main à la poche pour assurer 35% de la dépense. En clair, la première tranche pourrait démarrer l'an prochain. Ensuite, il restera 800 000 euros à réunir pour restaurer le reste de l'édifice. Et là encore, l'appel aux dons soit renouvelé via notamment le site internet de la Fondation du Patrimoine. Concluons en vous indiquant que la collégiale bénéficiera d'une visite commentée lors des prochaines journées du patrimoine le 17 septembre à venir. Reportage de Dominique Hérault. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de revenir plus longuement sur ces journées du patrimoine qui auront lieu le week-end des 17 et 18 septembre. Football, les Chamois Niortais ont officiellement présenté hier leur nouvel entraîneur, Rui Almeida, 52 ans, connaît bien notre pays puisqu'il a déjà coaché le Red Star, Bastia, Troyes et Caen. Il était sans club depuis novembre 2020 et son éviction du club portugais Gil Vicente. Ce dernier a signé pour un an plus une année supplémentaire en option. Le portugais arrive au Chamois accompagné de son adjoint Gabriel Santos. Rui Almeida a dit sa fierté en conférence de presse hier, fierté de rejoindre les Chamois et le championnat de Ligue 2 qu'il connaît bien.
Je suis fier d'être ici et je vais faire tout pour arriver à les objectifs du club le plus rapide possible. Vraiment, je suis très heureux, très content d'être ici, de revenir en France, de revenir au championnat français, de revenir en Ligue 2, en tout cas, parce que vraiment, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est un championnat particulier, cette saison, pour les 4 décembre.
Un championnat d'autant plus particulier que cette année, il est coupé en deux avec le Mondial en décembre. Le choix d'un coach expérimenté s'est donc imposé aux yeux de Mikael Hanouna, le directeur sportif, alors que l'on attendait plutôt un novice pour remplacer Sébastien Le Sabre.
C'était une opportunité qui était trop bonne pour la refuser. Quelqu'un qui avait une bonne expérience de ce que c'était que la Ligue 2, dans une année anxiogène comme celle qu'on est en train de vivre avec un changement, une refonte des championnats. On avait besoin d'une personne qui connaissait, qui avait une bonne expérience de la division avec des idées claires. Le profil idéal, c'est toujours pareil, ça évolue en fonction des circonstances et des analyses qu'on a pu faire suite au match qu'on a pu jouer pendant cette période-là. On a joué 5 matchs et on est un groupe de personnes à réfléchir sur le sujet. On pensait que amener un coach qui n'avait pas d'expérience en plein milieu d'une saison qui était compliquée, ça pouvait avoir beaucoup d'inconvénients. On a étudié beaucoup de candidatures. Et je vous dis, dès que la candidature de M. Almeida s'est présentée, ça a fait l'unanimité chez tous les décideurs. On considère qu'avec l'expérience qu'il a pour un club comme Niort, c'est une chance.
Mikael Hanouna, le directeur sportif des Chamois Niortais, à propos de la signature de Rui Almeida, nouvel entraîneur du club. Lui également était au micro-colline d'Alexis Denis.